Bonjour à tous. Bonjour à tous. Bonjour. Je suis habitué à un public plus jeune, comme vous le savez. J'enseigne en bas aux enfants. Mais je me suis dit, je suis capable aussi d'enseigner à des gens un peu plus âgés. Ils vont sûrement comprendre ce que je vais dire, vu que les enfants comprennent. En même temps, je me suis dit, comment je vais apporter ce que Dieu m'a mis à cœur. Et donc, j'y ai pensé, j'ai dit, oh, je vais leur faire une leçon d'école du dimanche. Oh. Comment je vais fonctionner aujourd'hui, c'est je vais faire premièrement un enseignement d'école du dimanche, puis vu que vous êtes des adultes, vous avez plus de capacité que des enfants. Oui. Et on va continuer avec plus de profondeur. Parce que, juste pour vous montrer, en fait, comment à l'école du dimanche, on enseigne les enfants et ce qu'on veut. Le but de l'école du dimanche, en fait, depuis 2-3 ans, même plus que ça, Christine, tu as les dates. Je ne sais pas si elle est là. 5 ans 4 La bonne nouvelle. Au moins 5 ans. On veut enseigner aux enfants à voir la bonne nouvelle de Jésus-Christ. D'où le titre d'aujourd'hui, Montre-leur la bonne nouvelle de Jésus-Christ. C'est basé sur un livre sur lequel Alain Fréchette nous avait parlé et qui parlait de ça. Donc, il y aura premièrement ça, puis il y aura après l'œuvre et la personne de Jésus, et 3, l'impact de la bonne nouvelle de Jésus. Donc, avant ça, je vais définir c'est quoi une bonne nouvelle. Une bonne nouvelle, qu'est-ce qu'une bonne nouvelle ? Ça peut être quelque chose qui me fait du bien, quelque chose qui change mes circonstances, quelque chose qui me met de bonne humeur, une bonne nouvelle. Bah, souvent, quand j'enseigne à des enfants, je fais comme, on pense à l'envers. C'est quoi ? Qu'est-ce que ça fait une mauvaise nouvelle ? Plutôt, une mauvaise nouvelle, oh, ça m'attriste. Qu'est-ce que ça fait d'autre ? Je regarde mes notes parce que ça amène de l'inquiétude, de l'anxiété, du stress, parfois du désespoir. Ça amène même une situation compliquée à gérer, des choses inattendues. Et un point commun qu'il y a entre la bonne nouvelle et la mauvaise nouvelle, c'est que ça amène aussi quelque chose d'inattendu. C'est ça qu'on veut. La bonne nouvelle amène quelque chose aussi d'inattendu. C'est quelque chose qui nous réconforte, qui change notre humeur et qui fait comme oh, je pensais que j'allais passer une journée plate, une bonne nouvelle. Oh, waouh, la vie a changé, c'est comme mon humeur a changé, c'est comme ok, j'ai plus d'énergie. En tout cas, la bonne nouvelle. Mais aujourd'hui, c'est plus la bonne nouvelle de Jésus-Christ et on va commencer donc avec la leçon de l'école du dimanche. Ok. On va lire dans Josué 7. C'est toujours souvent dans l'Ancien Testament l'école du dimanche, vous ne savez pas. Josué 7, c'est des textes compliqués, mais que Dieu nous permet par sa grâce de comprendre et de, comment on va dire, vulgariser pour les enfants et de voir la bonne nouvelle là-dedans. Donc je vais lire dans la version Bible du Semeur, Josué 7. Je vous le dis, à mon groupe, je leur fais lire le chapitre au complet. Donc je pense que vous êtes capables aussi. Donc on va lire. Ok. Les Israélites commirent un acte d'infidélité. Ok, je vais mettre un peu de contexte, c'est vrai. Contexte. Les enfants, d'habitude, ils suivent, c'est la leçon d'avant, c'était Jéricho, après, mais pour vous, c'est... Ok. C'était après la prise de Jéricho. Ils avaient tourné 7 fois autour des murs, les murailles sont tombées, ils ont vaincu la ville de Jéricho qui était imprenable. Mais Dieu leur a livré la ville de Jéricho. Et là, ils arrivent Et, mais Dieu avait dit aussi, avait donné des restrictions. Il disait, il vouait à l'interdit certaines affaires que les Israélites ne devaient pas prendre et qu'ils devaient laisser pour l'Éternel et qu'ils ne devaient pas s'occuper de ça. Et donc là, ici, on arrive à Josué 7. Après, je vous expliquer le contexte. OK, on va lire. Les Israélites commirent un acte d'infidélité à l'égard des objets voués à l'Éternel. Akan, fils de Carmi et descendant de Zabdi et de Zéra, de la tribu de Juda, prit pour lui certains de ces objets et l'Éternel se mit en colère contre les Israélites. De Jéricho, Josué, ouais. Je vois trop son nom là aujourd'hui, OK, de Jéricho, Josué envoya des hommes à la ville d'Aï, près de Beth-Aven, à l'est de Bethel, en leur demandant d'explorer cette région. Ils allèrent explorer Aï. À leur retour, ils dirent à Josué, « Il est inutile d'envoyer toute l'armée. 2 ou 3 000 hommes suffiront pour battre Aï. Ne donne pas de fatigue à tout le peuple, car l'adversaire est peu nombreux. » Oui, ils viennent de conquérir Jéricho. Ils se disent, oh, c'est juste un petit village. Okay. Pas besoin d'amener tout le peuple. Ainsi, environ 3 000 soldats allèrent attaquer la ville. Mais ils furent mis en fuite par les habitants d'Aï, qui leur tuèrent environ 36 hommes. Ils les poursuivirent depuis la porte de la ville jusqu'à Shebarim et les battirent dans la descente. Alors le peuple atterré perdit tous ses moyens. Ils ne sont plus habitués à la défaite. Et il y a eu des morts. Josué déchira ses vêtements. Il se jeta la face contre terre devant le coffre de l'Éternel et resta là jusqu'au soir. Les responsables d'Israël firent de même et ils se jetèrent de la poussière sur la tête. Josué s'écria, « Ah, Seigneur éternel, pourquoi donc as-tu fait traverser le Jourdain à ce peuple, si c'est pour nous livrer aux Amoréens et nous faire périr, si seulement nous étions restés de l'autre côté du fleuve ? Maintenant, je te prie, Seigneur, que puis-je dire après qu'Israël a pris la fuite devant ses ennemis ? Les Cananéens et les autres habitants du pays l'apprendront, ils nous encercleront et feront disparaître notre nom de la terre. » Comment, là, alors, feras-tu reconnaître ta grandeur ? L'Éternel répondit à Josué, « Lève-toi. Pourquoi restes-tu prosté la face contre terre ? Israël a commis un péché. On a transgressé l'alliance que tu avais établie pour eux. On a pris des objets qui m'étaient voués. On en a dérobé, caché et mis dans ses propres affaires. C'est pourquoi les Israélites ne pourront plus résister à leurs ennemis. Ils fuiront devant eux, car ils sont sous le coup d'une sentence de destruction. Je ne continuerai pas à être avec vous si vous ne détruisez pas ce qui est au milieu de vous. Maintenant, lève-toi, Josué, convoque le peuple et purifie-le. Dis-leur, purifiez-vous pour demain, car voici ce que déclare l'Éternel, le Dieu d'Israël. Vous avez au milieu de vous, Israélites, ce qui m'est voué. Vous ne pourrez pas résister à vos ennemis tant que vous n'aurez pas ôté cela du milieu de vous. Demain matin, vous vous présenterez devant moi par tribu. Puis la tribu de l'Éternel désignera par le sort qui se présente par le sort. Puis la tribu de l'Éternel que l'Éternel désignera par le sort se présentera groupe familial par groupe familial et le groupe familial que l'Éternel désignera s'avancera famille par famille. Dans la famille que j'aurai désignée, les hommes se présenteront un par un. Celui qui sera désigné comme coupable d'avoir pris ce qui m'était voué sera brûlé avec tout ce qui lui appartient, parce qu'il a transgressé l'alliance de l'Éternel et qu'il a commis une infamie en Israël. Le lendemain, Josué se leva de bon matin et fit avancer les Israélites tribu par tribu. Et c'est la tribu de Juda qui fut désignée. Il la fit approcher groupe familial par groupe familial. Le sort désigna celui de Zéra. Il fit passer la famille du groupe familial de Zéra l'une après l'autre, et c'est la famille de Zabdi qui fut désignée. Il fit avancer chaque famille homme par homme, et Akan, fils de Carmi, descendant de Zabdi et de Zéra, de la tribu de Juda, fut désigné par le sort. Josué lui dit, « Mon fils, Je te prie solennellement, au nom de l'Éternel, le Dieu d'Israël, de l'honorer en m'avouant ce que tu as fait sans rien me cacher. » Akan lui répondit, « C'est vrai, j'ai commis une faute envers l'Éternel, le Dieu d'Israël. Voici ce que j'ai fait. J'ai vu dans le butin un magnifique manteau de Babylone, 200 pièces d'argent et un lingot d'or d'une livre. J'en ai eu fortement envie, alors je m'en suis emparé. Ces objets sont enterrés au milieu de ma tente et l'argent est en dessous. » Josué envoya des hommes à la tente d'Akan. Ils se dépêchèrent d'y aller et retrouvèrent effectivement le manteau enfoui dans la tente et l'argent en dessous. Ils prirent le tout et l'apportèrent à Josué, à tous les Israélites, puis on le déposa devant l'Éternel. Josué, aidé de tous les Israélites, saisit Akan avec l'argent, le manteau, le lingot d'or, ainsi que ses fils, ses filles, ses bœufs, ses ânes, ses brebis, sa tente, bref, tout ce qui lui appartenait, et les menèrent dans la vallée d'Akor. Josué dit à Akan, « Pourquoi nous as-tu attiré le malheur ? Que l'Éternel fasse ton malheur aujourd'hui. » Alors tous les Israélites le lapidèrent. Ils lapidèrent aussi tous les siens et brûlèrent les cadavres. Puis on éleva sur lui un grand tas de pierres qui existe encore aujourd'hui. Après cela, l'Éternel abandonna sa colère. C'est à cette occasion que l'endroit fut appelé vallée d'Akor, vallée du malheur, nom qui lui est resté jusqu'à ce jour. Une bonne leçon pour les enfants. Comment on enseigne ça à des enfants? Parce que ça fait partie du programme. Ça fait partie de la Bible, c'est l'Ancien Testament, ça fait partie de l'apprentissage. En fait, dans la recherche de la bonne nouvelle, on essaie toujours de trouver plusieurs points. Qu'est-ce que Dieu fait? Qu'est-ce que Dieu révèle sur lui? Et comment ça peut s'appliquer dans la bonne nouvelle, l'œuvre de Jésus-Christ? Et donc ici, on pourrait penser, ok, Akan a péché, c'est ce qui est en fait, on n'a pas besoin de penser, c'est ce qui est fait. Akan a péché, il a tiré le malheur sur les tribus d'Israël, et ils ont perdu une bataille. En fait, ici dans l'histoire, une personne a commis un péché et beaucoup d'autres personnes sont mortes à cause du péché de cet homme. Donc on pourrait dire que la leçon ici, c'est péché, c'est mauvais. Mais ça, pas besoin de le dire aux enfants, ils le savent déjà. Là, on veut pas. C'est pas le but de l'école du dimanche, on ne veut pas juste enseigner péché, c'est mauvais, ils le savent. Il n'y a pas besoin de nous pour le savoir, pour le dire. Même dans notre société, on sait qu'on a une balance sur ce qui est bien, ce qui est mal. On sait aussi que les mauvaises actions qu'on fait vont avoir des conséquences sur les autres, sur la vie des autres, sur ma vie et celle des autres. Et ça, c'est là qu'arrive. En fait, c'est une mauvaise nouvelle. Qui n'a jamais commis de mauvaises actions? Qui n'a jamais commis de péché? Qui n'a jamais eu dans ses pensées l'intention de faire du mal à quelqu'un ou souhaiter le mal à quelqu'un? Et la leçon que... Comment j'amènerais ça? Comment plutôt dans le livre de... Comment il s'appelle? Je ne me rappelle plus. Show them Jesus. Montre-leur Jésus. Il dit... Je veux lui dire, c'est ce qu'il, comment il a amené cette leçon-là aux enfants? Il dit, ok, Dieu nous révèle qu'il ne peut pas laisser un péché impuni. C'est ça qu'on apprend ici. Dieu ne peut pas laisser un péché impuni parce qu'il est saint et juste. Donc là, qui peut être dans la présence de Dieu, qui peut soutenir, qui peut éviter sa colère. Mais une autre leçon qu'on apprend dans cette histoire, c'est que, comme je l'ai déjà dit, une personne peut mourir à cause des péchés d'un autre. Ça, c'est quelque chose qu'on peut prendre de cette histoire-là. La famille d'Akan est morte à cause du péché d'Akan. Donc ça, c'est ce qu'on voit dans Josué 7, 25, d'ailleurs, si on revient. Bon, je n'ai pas besoin d'aller lire. Mais et comment on amène cette histoire-là à l'évangile de Jésus? Bah, en fait, on peut dire que plus tard, il y aura un homme qui n'a jamais commis de péché et qui va mourir pour ceux qui ont commis des péchés, et pour que ceux-là puissent vivre. C'est comme ça qu'on peut amener l'évangile, la bonne nouvelle de Jésus, dans une histoire comme celle-ci, où bon, il y a plein de morts là, dans cette histoire-là. Mais une personne, la leçon c'est, une personne a péché, une personne a subi les conséquences. Et plusieurs personnes ont subi les conséquences. Oui, c'est ça. C'est une personne a péché, plusieurs personnes en conséquence. Donc, bon, je vais essayer de m'y retrouver. Mais au final, parce que si on revient à Josué 7, 26, c'est là qu'on voit vraiment où ça amène à l'évangile. Parce que dans Josué 7, 26, ça nous dit « Puis on éleva sur lui un grand tas de pierres sur Akan, une fois qu'ils ont été, ils ont subi le châtiment. Puis on éleva sur lui un grand tas de pierres qui existe encore aujourd'hui. Après cela, l'Éternel abandonna sa colère. » Donc, c'est là qu'on peut amener l'évangile en disant Jésus, de même, Jésus, lui, a subi la colère de Dieu à notre place, à nous qui sommes pécheurs. Et parce qu'on croit en Jésus, notre Seigneur et notre Sauveur, nous ne subissons plus sa colère, nous ne subissons plus la colère de Dieu malgré notre état de pécheur et malgré nos péchés. Car, et là c'est l'évangile, car Dieu nous a tellement aimés qu'il a envoyé son Fils unique, Jésus, pour mourir sur la croix pour nos péchés. Jésus a souffert, a versé son sang, a subi le rejet de Dieu, afin qu'on soit pardonné, déclaré juste devant la justice parfaite de Dieu. Oui, je peux déclarer à chaque instant, à chaque jour que je suis aimé de Dieu et je suis accepté par Dieu grâce à l'œuvre de Jésus. Depuis 2-3 ans, en fait, dans mes prières, je commence toujours cela. Je me rappelle que je suis aimé de Dieu et que je suis accepté de Dieu, non pas par mes propres mérites, mais par les œuvres de Jésus-Christ, l'œuvre que Jésus-Christ a fait à la croix. Et qui me soutient. Et je suis déclaré juste et ça me permet de me présenter devant Dieu comme son enfant, comme son enfant adopté, héritier de toutes ses bénédictions. Et je vous le dis, à chaque prière, j'ai besoin de me le rappeler. On dirait qu'à chaque fois, j'oublie que je suis aimé de Dieu, je suis accepté de Dieu. Pourquoi ? Parce qu'en moi, il y a toujours cette lutte-là, on me dit, non. Comment il peut m'aimer? Je me connais. Comment il peut m'aimer? Comment il peut m'accepter? Ben non. Moi, je méritais juste une chose. Il y a une chose que je méritais. Et ça, c'est, j'avais une discussion avec Jonathan Mijour pendant la convention. Et à un moment donné, il me dit, moi, tu sais, il y a juste une chose que je mérite. S'il y a quelque chose que je mérite, c'est d'être envoyé dans le feu de l'enfer. La seule chose que je mérite, c'est la condamnation de Dieu. Mais par l'œuvre de Christ, j'ai ce pardon-là, cette rédemption-là. Et moi, ça m'avait marqué quand il m'avait dit ça, parce qu'il avait insisté sur le mot « je mérite, je mérite ». Je fais comme hey, « pourquoi tu dis tu mérites, tu mérites ?» Oh, on ne mérite rien, nous. Tu sais, on a toujours appris à, en fait, par l'enseignement de Pasteur Jeff, c'est la grâce. C'est, on n'a rien mérité. Et quand Jonathan il me dit « quelque chose que je mérite », moi, ça m'avait comme « ok, j'attends ce que tu vas me dire. C'est quoi ?» Ah ouais, t'as raison. Je méritais juste d'être envoyé dans le lac de feu, d'être condamné et d'être... Et ici, un lien avec l'histoire de Josué, de Akan, parce que souvent, quand on fait l'enseignement à l'école du dimanche, ça vient chercher la justice chez les enfants. On dit, hey, les autres, là, ils n'ont rien fait. Les autres de la famille, les bœufs, les ânes, tu vois, toute la liste, là, Oh, les fils, les filles, les bœufs, les ânes, les brebis, sa tante. Hey, ils ne méritent pas ça. Qu'est-ce que je mérite ? Parce qu'on n'a pas. On oublie que Dieu est saint et juste et que la seule chose qu'on mérite, c'est vraiment, selon sa justice à Dieu, c'est notre condamnation d'être lapidé. Et on viendra plus tard sur le texte de Philippiens qui dit « Tout peuple s'agenouillera devant le Christ » parce que justement, c'est ça. Ok. Bah, voilà, ce serait la fin de la leçon de l'école du dimanche et on passerait à la collation. Ok. Non, j'ai encore du temps là, ça va. Mais on va y aller plus sur le vif du sujet. Bah, ça fait partie du sujet. Comme... Ok. On va lire maintenant Philippiens. On va aller approfondir la bonne nouvelle. Philippiens. On va lire Philippiens 1, 8 à 11, puis 27 à 1, 27 et 2 jusqu'à 2, 11. Ok, Philippiens 1, 8. Ok. Dans la Bible du Semeur, toujours. Oui, Dieu m'en est témoin, je vous aime tous de l'affection que vous porte Jésus-Christ. Et voici ce que je demande dans mes prières, c'est que votre amour gagne de plus en plus en connaissance, en pleine connaissance et en parfait discernement, pour que vous puissiez discerner ce qui est important. Ainsi, vous serez purs et irréprochables au jour de Christ, où vous paraîtrez devant lui chargés d'œuvres justes, ce fruit que Jésus-Christ aura produit en vous à la gloire et à la louange de Dieu. Et là, on va passer directement au verset 27. Quoi qu'il en soit, menez une vie digne de l'évangile de Christ en vrai citoyen de son royaume. Ainsi, que je vienne vous voir ou que je reste loin de vous, je pourrai apprendre que vous tenez bon, unis par un même esprit, luttant ensemble d'un même cœur par la foi fondée sur l'Évangile, sans vous laisser intimider en rien par les adversaires. C'est pour eux le signe qu'ils courent à leur perte et pour vous celui que vous êtes sauvé, et cela vient de Dieu. Car en ce qui concerne Christ, Dieu vous a accordé la grâce non seulement de croire en lui, mais encore de souffrir pour lui. Vous êtes en effet engagé dans le même combat que moi, ce combat que vous m'avez vu soutenir et que je soutiens encore maintenant, comme vous le savez. N'avez-vous pas trouvé en Christ un réconfort, dans l'amour un encouragement, par l'Esprit une communion entre vous? N'avez-vous pas l'affection et la bonté les uns pour les autres? Rendez donc ma joie complète, tendez à vivre en accord les uns avec les autres, et pour cela, ayez le même amour, une même pensée, et tendez au même but. Ne faites donc rien par esprit de rivalité ou par un vain désir de vous mettre en avant. Au contraire, par humilité, considérez les autres comme plus importants que vous-même. Et que chacun regarde non ses propres qualités, mais celles des autres. Tendez à vivre ainsi entre vous, car c'est ce qui convient quand on est uni à Jésus-Christ. Lui, qui était de condition divine, ne chercha pas à profiter de l'égalité avec Dieu, mais il s'est dépouillé lui-même et il a pris la condition d'un serviteur en se rendant semblable aux hommes. Se trouvant ainsi reconnu à son aspect comme un simple homme, il s'abaissa lui-même en devenant obéissant jusqu'à subir la mort, oui, la mort sur la croix. C'est pourquoi Dieu l'a élevé à la plus haute place et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Pour qu'au nom de Jésus-Christ, tout être s'agenouille dans les cieux, sur la terre et jusque sous la terre, et que chacun déclare « Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père ». Donc ici, j'arrive sur ma partie où sur l'œuvre et la personne de Jésus. Je vais commencer par la partie que justement Arnaud a lu ce matin pendant les louanges, de qui est Jésus, qu'est-ce qu'il a fait. En fait, à l'école du dimanche, ça fait partie de notre enseignement, c'est dire qui est Jésus et qu'est-ce qu'il a fait. Ici, on peut lire dans le texte, c'est assez limité, mais c'est suffisant, parce que Jésus est plus que ce qui est écrit dans le texte. Quand on lit tout ce que la Bible nous parle, on voit une panoplie de... Que ce soit dans l'Ancien Testament, on voit le Nouveau Testament, on voit dans le cours de prophètes, sur les prophètes, on voit Jésus partout annoncé, son œuvre, et même sa personne. Dans le Nouveau Testament, c'est clair et net. Et ici, on voit Jésus, c'est qui ? On voit lui qui était de condition divine. On sait, c'est la deuxième personne de la Trinité, le Fils. Il s'est incarné en tant qu'être humain dans les mêmes conditions que nous, dans les mêmes limites, dans les mêmes conditions, c'est-à-dire il vivait 100% homme, sauf pour ce qui est du péché. On l'a assez entendu, mais il faut le répéter, parce que pour le répéter, on oublie tout le temps. Et une pensée que j'avais, c'est quand j'entends plusieurs fois la même chose, je me dis, il faut que j' aie l'humilité de me dire, si Dieu me le répète plusieurs fois, c'est que je n'ai pas compris quelque chose. Donc, à chaque fois, je me dis, parce que souvent, on peut dire, ah, mais je l'ai déjà entendu celle-là, mais non. Si Dieu me le répète, c'est que j'ai besoin de comprendre quelque chose. Donc, Jésus-Christ, 100% humain, vivant les mêmes conditions que nous, les mêmes émotions, sauf la nature pécheresse. Et qu'est-ce que le texte nous dit sur lui ? Il a pris la condition d'un serviteur, semblable aux hommes, et il s'abaissa lui-même en devenant obéissant jusqu'à subir la mort. Il a accompli la parfaite obéissance, il accomplit ce que Dieu exigeait pour l'homme. Il accomplit la loi de Dieu, les 10 commandements. Il accomplit tout. Il a tout accompli pour nous. En fait, ce que j'aime dire, c'est... J'ai une illustration que je donne souvent aux enfants, c'est si Dieu me fait passer un examen, il me fait passer un examen, je passe l'examen, Et il fait passer le même examen à Jésus. Et au moment de rendre mon examen à Dieu, Jésus dit, non, non, on switch, on switch. Tiens, ça c'est le tien, on va mettre ton nom là-dessus, moi je vais mettre mon nom sur le tien. J'ai eu 100%. J'ai eu 100%. Oh, waouh, quelle bonne nouvelle. J'ai eu 100%. Je pensais que j'avais échoué, que j'étais nul dans cette matière. Oui, j'étais nul dans la matière, mais quelqu'un a passé l'examen à ma place et a payé aussi le prix à ma place. Afin que, justement, je rentre. Parce que la justice de Dieu ne demande pas 99%, demande 100%. Parce que Dieu est saint. Autre chose qu'on peut voir sur l'œuvre de Jésus, c'est que, ou sur la personne de Jésus, c'est qu'il est resté dépendant de Dieu en tout temps. On le voit même dans le jardin de Gethsémané, juste avant de se faire livrer ou de se livrer pour mourir sur la croix, il y a cette prière où il dit « Non, pas ma volonté, mais la tienne. » Il a dû renoncer à lui-même. Il a dû renoncer à sa propre volonté. Je vous le dis, il était 100% homme. Il avait les mêmes émotions que nous. Vous voyez, moi, m'imaginer si si quelqu'un me demandait de faire la prédication un dimanche et que d'un coup, je suis comme, oh, je suis stressé parce que quelqu'un m'a dit, c'est toi qui apportes le message, telle date. Oh là 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 là, le stress. Mais là, Jésus, c'est pire que ça. Jésus, c'est, tu vas subir la condamnation, la colère de Dieu. Tu vas subir la condamnation, la colère de Dieu ce jour-là. Imaginez l'angoisse qui pouvait vivre Jésus, mais il est resté attaché. C'est pour ça qu'on dit, le verset dit, il s'abaissa lui-même en devenant obéissant jusqu'à subir la mort, oui, la mort sur la croix. Ça montre sa dépendance envers Dieu, mais aussi le renoncement qu'il y a eu de lui-même pour qu'on ait cette vie, nous, qui croyons en lui, pour qu'on ait cette rédemption-là. Et ainsi, il a assouvi la colère de Dieu, comme dans Josué 7, 26, parce que Akan et toute sa famille est morte, la colère de Dieu s'est retirée et le peuple d'Israël a pu continuer à vaincre. Mais ça ne s'arrête pas là. Une chance. Parce que la bonne nouvelle de Jésus, ce n'est pas juste qu'il est mort. Ce n'est pas juste qu'il a pris notre condamnation. Parce que si on s'arrête là, Paul nous dit, l'évangile est vain. On a cru à pour rien. Mais il a été élevé, il a la pleine autorité dans les cieux et sur la terre. Pourquoi ? Parce qu'il est ressuscité. Dieu l'a ressuscité et il l'a élevé et il a une pleine autorité. Comme on lit dans verset 9, c'est pourquoi Dieu l'a élevé à la plus haute et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, pour qu'au nom de Jésus-Christ, tout être s'agenouille dans les cieux, sur la terre et jusque sous la terre, et que chacun déclare Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Quand on présente ce Jésus tel quel aux enfants, ils voient, on espère en fait, qu'ils rencontrent, qu'ils veulent rencontrer cette personne de Jésus ressuscité dans leur vie, qui va leur amener la paix, la restauration de la relation avec leur Père, et de voir cette personne admirable, Oui, Jésus, c'est une personne admirable pour ceux qui l'ont reconnu, pour qui il est et pour ce qu'il a fait pour nous, par amour pour Dieu son Père. Une personne admirable. On lit dans, je pense c'est dans Psaume, on dit admirable conseiller. Ésaïe. Oui, Ésaïe. Admirable conseiller. Moi, je vais passer maintenant à la partie. Ouais, ça va vite. Ouf. La partie 3. Impact de la bonne nouvelle de Jésus dans nos vies. Là, je reviens sur Philippiens 2, 1 à 5. Oh, oui. OK. On va lire. N'avez-vous pas trouvé en Christ un réconfort dans l'amour, un encouragement dans l'esprit, une communion entre vous? N'avez-vous pas de l'affection et de la bonté les uns pour les autres? Rendez donc ma joie complète, tendez à vivre en accord les uns avec les autres, et pour cela, ayez le même amour, une même pensée, et tendez au même but. Ne faites donc rien par esprit de rivalité ou par un vain désir de vous mettre en avant. Au contraire, par humilité, considérez les autres comme plus importants que vous-même, et que chacun regarde non ses propres qualités, mais celles des autres. Tendez à vivre ainsi entre vous, car c'est ce qui convient quand on est uni à Christ. Donc, quand on est uni à Christ, l'humilité, cela nous rend humbles, uni en Christ. Humilité, c'est quoi? C'est voir les intérêts des autres, considérer les autres plus importants que nous-mêmes pour développer l'amour envers les autres. Dans un cours sur l'islam donné par Dr Jabala, il nous disait envers les musulmans, nous disait si vous n'avez pas d'admiration pour une personne, vous ne pourrez pas les aimer. Et ça c'est ce qu'il nous disait. Moi j'ai réfléchi, je dis c'est vrai. Si j'ai pas d'admiration pour quelqu'un, qu'est-ce que je fais? Je la méprise. Comment je peux aimer quelqu'un que je méprise? Comment je peux aimer quelqu'un que je regarde de haut? Comment je peux aimer quelqu'un qui dans mon cœur dit « Oh, il n'y a aucune valeur, cette personne-là. » Alors que admirer, et quand on regarde ce que veut dire admirer, c'est pas de français là, admirer, c'est du latin, c'est admirer. C'est mirer, c'est regarder, et ad, c'est vers. C'est bien ça? C'est tourner le regard vers. Donc, et mépriser, c'est le contraire. C'est détourner le regard de « Oh, ça ne vaut pas la peine. » Et cette phrase-là m'a marqué beaucoup, là, c'est « Est-ce que je regarde les autres? Comment je regarde les autres? Comment je regarde mon prochain? Comment je regarde l'autre? » Et je vais aller sur une illustration. Pour ça que Bruno, je me suis rappelé. L'année dernière, j'enseignais à l'école ACRN pour les dévotions, et je leur parlais de l'amour de Dieu, c'est se renoncer à ce que tu veux et voir l'intérêt de l'autre. Et je vais raconter une histoire que j'ai racontée aussi dans cette dévotion-là, ce qui m'était arrivé, c'était la fin de l'église. On avait eu un repas multiculturel à la CRN et ma femme Valérie avait fait des nems, des rouleaux de printemps, des rouleaux impériaux, des nems. Et je pense que Bruno et sa femme avaient beaucoup aimé ces nems-là. Et ce dimanche-là, il y a Emmanuel, j'étais prêt à partir, et il y a Emmanuel qui vient me dire, Sanef, il y a notre frère Bruno, là, qui a sa femme vraiment aimé les nems, là, et voudrait la recette. Est-ce que tu peux aller le voir? Là, j'étais prêt à partir. J'étais comme, oh, ça ne me tente pas. Je pourrais juste dire que je ne l'ai pas vu et je m'en vais. Mais l'enseignement me dit, hey, vois les intérêts de l'autre. C'est ça que j'enseigne aux enfants. Là, là tu as l'application exacte. Il faut que je renonce à mon envie de partir et de l'ignorer. Et là, je dis, OK, je vais y aller le voir. OK. Je vais aller le voir. Il m'a dit, OK, il m'a dit tout ça, là, il a aimé, il aimerait ça, la recette. Ça a pris un an avant que je lui donne. Je lui ai donné ce matin. Mieux vaut tard que jamais. Bon, je vais aller vite parce que on n'aime pas quand les enseignants dépassent midi parce que les enfants ils commencent à s'exciter. Alors, je vais finir par la liberté amenée par l'amour. Parce que l'impact de la bonne nouvelle de Jésus, c'est, comme je vous disais tantôt, c'était de savoir aimer, de savoir accepter. Ça, c'est ça qui nous libère de l'approbation, de rechercher l'admiration des autres, de rechercher l'admiration, l'approbation des hommes. Et même, ça va nous aider à renoncer à nous-mêmes. Et je vais citer un certain pasteur bien connu sur la liberté. Je ne sais pas s'il va se reconnaître, je vous le dirai après qui c'est. La vraie liberté, c'est d'être affranchi pour pouvoir marcher dans la volonté de notre Dieu. Jésus n'avait pas besoin de chercher l'admiration auprès des humains, car il vivait dans cette liberté-là, celle qui était de faire la volonté de celui qui l'a envoyé, c'est-à-dire Dieu son Père. Libéré de la recherche de l'approbation des hommes, il pouvait continuellement rester dans la dépendance envers Dieu, dans la communion avec Dieu. De même, nous qui croyons dans l'œuvre et la personne de Jésus, sommes devenus des enfants de Dieu et avons aussi accès à cette liberté, faire la volonté de celui qui nous a envoyés. Celui qui est libéré de cela est celui qui se nourrit constamment de l'amour et l'acceptation de Dieu pour accomplir les œuvres préparées d'avance, celles où où nous avons rendez-vous avec Dieu pour sa gloire et non la nôtre. Et une autre dernière citation, « Le vrai libéré est celui qui n'a pas besoin de faire des choses importantes pour se sentir important. Il se sait aimé inconditionnellement de Dieu et accepté par Dieu. Nous sommes si importants pour Dieu qu'il est venu sur terre pour vivre en humain et accomplir l'œuvre qui nous permettait d'être sauvés. Christ a été crucifié, a souffert la colère de Dieu à notre place. C'est cette bonne nouvelle que nous voulons proclamer et que le monde a besoin. Vous avez reconnu, c'est qui le pasteur? Pasteur Jeff. On l'a entendu assez, mais on a toujours besoin de se le faire répéter, et c'est vrai. Donc, j'avais prévu de finir par une lecture, je ne l'ai pas donnée. Éphésiens 2, 1 à 10. On est dans Philippiens, mais ça vient résonner exactement. Autrefois, vous étiez morts à cause de vos fautes et vos péchés. Par ces actes, vous conformiez alors votre manière de vivre à celle de ce monde et vous suiviez le chef des puissances spirituelles mauvaises. Cet esprit qui agit maintenant dans les hommes rebelles à Dieu. Non, c'est-tu le bon ? Oui. Bon, cet esprit qui agit maintenant dans les hommes rebelles à Dieu, nous aussi, nous faisions autrefois tous partie de ces hommes. Nous vivions selon nos mauvais désirs d'hommes, livrés à eux-mêmes, et nous accomplissions tout ce que notre corps et notre esprit nous poussaient à faire. Aussi étions-nous, par nature, voués à la colère de Dieu, comme le reste des hommes. Mais Dieu est riche en bonté. Aussi, à cause du grand amour dont il nous a aimés, alors que nous étions morts à cause de nos fautes, il nous a fait revivre les uns et les autres avec Christ. C'est par la grâce que vous êtes sauvés. Par notre union avec Jésus-Christ, Dieu nous a ressuscités les uns et les autres et nous a fait siéger les uns et les autres dans le monde céleste. Il l'a fait afin de démontrer pour tous les âges à venir l'extraordinaire richesse de sa grâce qu'il a manifestée en Jésus-Christ par sa bonté envers nous. Car c'est par sa grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est un don de Dieu. Ce n'est pas le fruit d'œuvre que vous auriez accompli. Personne n'a donc de raison de se vanter. Ce que nous sommes, nous le devons à Dieu, car par notre union avec Jésus-Christ, Dieu nous a créés pour une vie riche d'œuvres bonnes qu'il a préparées à l'avance afin que nous les accomplissions. Amen.